Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, nous sommes vendredi, dans 30 minutes, la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix. Ce matin, certains d'entre vous souhaitent prendre la parole pour commenter la condamnation de l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, condamné donc à 15 ans de prison. On nous appelle de Côte d'Ivoire après la réélection de Tidjane Thiam à la présidence du PDCI, en vue évidemment de la présidentielle du mois d'octobre. Vous êtes toujours aussi nombreux à commenter la dissolution de l'ensemble des partis politiques au Mali, aussi nombreux également à réagir aux propos du Premier ministre guinéen cette semaine concernant les élections dans son pays. Il assure que la présidentielle et les législatives se tiendront en décembre. Voilà donc un aperçu de la Libre Antenne et des sujets qui vous intéressent. Si d'autres sujets vous interpellent, n'hésitez pas, on vous attend, vous êtes les bienvenus au standard 33 9 693 693 70. Dans un petit quart d'heure, comme tous les vendredis, Jessica Taïeb nous rejoindra, un œil sur les réseaux. Jessica passe la semaine à scruter les réseaux sociaux et elle viendra tout à l'heure nous parler du sujet qui fait débat. Et peut-être aurez-vous envie de prendre la parole justement dans la Libre Antenne juste après avoir entendu Jessica Taïeb. Mais d'abord, ce sont vos questions, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. On va commencer avec Jonathan qui est au Cameroun. Bonjour Jonathan.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Et merci de nous écouter à Yaoundé. Vous avez des questions concernant le coton camerounais?
Oui, le Cameroun est le pays qui présente le meilleur rendement coton en Afrique. Pourtant, cette année a été décevante en termes de production. Qu'est-ce qui explique la baisse de la production? Les cotonculteurs peuvent-ils espérer une compensation financière du gouvernement?
Alors, c'est vrai que la précédente campagne, celle de 2023-2024, avait permis au Cameroun de récolter près de 400 000 tonnes de coton graines. Mais les prévisions pour la nouvelle campagne ne sont pas très très bonnes, puisqu'on devrait atteindre péniblement les 290 000 tonnes. Bonjour Charlotte Cosset.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service économie de RFI. Vous rentrez justement de Garoua, dans le nord du Cameroun, là même où se trouve le bassin cotonnier du pays. Pourquoi la production s'annonce-t-elle plus faible que la normale?
Alors juste, je vais vous corriger, Juan, je vais me permettre. Donc, la précédente campagne, donc c'est 2022-2023 et pas 2023-2024.
Ah oui, parce que ça, c'est la nouvelle, c'est celle qui arrive. Autant pour moi, vous faites bien de m'en reprendre.
Il n'y a pas de mal. Alors, donc, cette baisse, elle s'explique par différents facteurs. Jonathan, il y a d'abord les conséquences du dérèglement climatique. L'extrême nord a été confronté à des inondations qui ont envahi les champs. Une autre partie du bassin de production a été, lui, confrontée à une sécheresse plus longue d'un mois que les années précédentes. Et c'est ce dont témoignent les cotonculteurs sur place. Alors, ce sont des phénomènes météo extrêmes qui ont endommagé une partie du coton qui a donc soit pourri à cause de l'eau, soit ne s'est pas développé correctement.
Autre phénomène, Charlotte, l'insécurité dans le nord.
Mais oui, l'extrême nord du pays est touché par des incursions de Boko Haram, on le sait, et du banditisme. Alors, lors de mes discussions avec les cotonculteurs de la région, c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Ils témoignent d'attaques, d'enlèvements contre rançons. Alors, si l'impact sur la production n'a pas été précisément évalué, l'activité est forcément impactée.
Ouais, et puis, il y a eu aussi l'arrivée de ces nouveaux ravageurs dans les champs de coton,
voilà,
qui ont eu des effets dévastateurs.
Oui, cette nouvelle espèce de jacide, alors elle était déjà très présente en Afrique de l'Ouest, mais elle est venue un petit peu plus tardivement toucher les cultures camerounaises lors de cette dernière campagne. Alors, les dégâts se font à tous les stades du développement de la plante. Ça se traduit concrètement par soit la chute des feuilles, soit des boutons et des fleurs. Alors, les cotonculteurs ont peiné à trouver des solutions pour lutter contre ces phénomènes. L'une des raisons, c'est que le peu de produits phytosanitaires efficaces qui sont disponibles sur le marché.
Les produits phytosanitaires sont les pesticides.
Voilà, exactement.
Voilà, qui protège les champs.
Et donc, il fallait des accords et des tests dessus pour les valider.
Alors, Jonathan nous demandait si, face à la baisse de la production, les cotonculteurs pouvaient espérer une compensation financière de la part des autorités et du gouvernement. gouvernement.
Alors sur ce sujet, la Confédération nationale des producteurs de coton dit avoir eu les assurances du ministère de l'Agriculture d'avoir une subvention de 12 francs CFA par kilo de coton. Alors on a appelé le ministère, on n'a pas vraiment réussi à avoir cette confirmation. Cependant, c'est un coup de pouce qui permettrait la vente à 280 francs CFA le kilo de coton. Un geste des autorités que saluent évidemment les producteurs. Cependant, la Confédération estime que le prix d'achat reste encore trop faible pour subvenir aux besoins des cultivateurs, notamment pour eux de rembourser les engrais achetés à crédit, un prix quoi qu'il en soit plus bas que d'autres pays producteurs comme le Burkina Faso, où le prix du kilo est de 325 francs CFA cette année par exemple. Alors, par ailleurs, le Cameroun est le seul pays à ne pas subventionner les engrais pour le coton par exemple. Donc la CNPCC, donc cette confédération, espère un effort supplémentaire pour soutenir la filière. L'organisation s'inquiète d'un découragement des producteurs et du risque d'abandon de cette activité par une partie des producteurs lors de la prochaine campagne, et cette prochaine campagne va débuter prochainement.
Vous êtes cotoculteur, vous nous écoutez en ce moment, vous avez peut-être envie de prendre la parole, RFI vous la donne dans la libre antenne, profitez-en, appelez-nous tout à l'heure. Jonathan, a-t-on répondu à vos questions ?
Très bien, Juan.
Bah, merci à Charlotte Cosset.
Merci à vous.
Journaliste. Merci aussi à vous.
Charlotte Cosset, journaliste au service économie de RFI. Et bonne journée à Yaoundé, mon cher Jonathan. 10h16 ici à Paris, on repasse au standard avec Serge. Bonjour.
Ah, bonjour, monsieur.
Serge, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends pas.
Ah voilà, moi je vous entendais moyennement bien, pour être honnête, mais là je vous entends mieux. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous avez des questions sur le Mali, après la dissolution, la décision des militaires de dissoudre tous les partis politiques.
Exactement. Alors, je disais tout simplement que la situation politique au Mali continue de susciter de nombreuses interrogations, tant sur le plan national qu'international. La récente décision des autorités de transition de dissoudre l'ensemble des partis politiques soulève des préoccupations majeures. Donc, moi, j'ai trois questions à ce sujet.
Allez-y.
Alors, la première question, c'est comment cette mesure est-elle justifiée par les autorités en place ?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Serge, si vous le permettez. Bonjour, David Baché.
Bonjour, Juan. Bonjour, Serge.
Journaliste au service Afrique de RFI. Comment les autorités de transition justifient-elles cette décision considérée par beaucoup comme radicale ?
Alors d'abord, on peut parler de l'ordre public. C'était le motif officiel de leur suspension, qui a précédé de quelques jours leur dissolution. Et c'est encore une justification qui a été évoquée par le ministre délégué en charge des réformes politiques lorsqu'il s'est félicité de cette dissolution mercredi devant la presse malienne. Mamani Nassiré a estimé que les partis jouaient un rôle déstabilisateur. Ça, c'est une allusion au mouvement de contestation de la transition inédite qui a éclos au début du mois. Mais avant cela, il faut bien dire qu'un processus de réforme avait déjà été initiée, et c'est dans ce cadre que s'inscrit officiellement la dissolution des partis et de toutes les organisations à caractère politique du Mali, avec pour objectif affiché d'assainir la vie politique malienne.
Vous nous parlez là de la fameuse relecture de la charte des partis politiques.
Oui, c'est ça. Cette charte qui a donc été abrogée en début de semaine et qui doit désormais être remplacée par un nouveau texte. Alors ce processus de réforme, il avait été lancé il y a plusieurs mois, hein, et les partis politiques eux-mêmes s'étaient impliqués pour mettre un terme à certains abus. Je vous cite les points les plus importants. Réduire le nombre pléthorique de partis dans le pays, près de 300, dont certains sont clairement des partis fantômes, hein, qui servent, ou plutôt qui servaient, à recueillir des subventions ou à flatter les présidents fondateurs de ces partis. Donc il s'agit à la fois de mieux encadrer la création des partis, leur financement public aussi, ou encore d'en finir avec le nomadisme politique.
Le nomadisme politique, c'est lorsque des hommes politiques vont dans un parti, d'un parti à un autre, parfois même en plein mandat.
Voilà, donc il y avait besoin de mettre un terme à certaines mauvaises pratiques. Et ce besoin avait été clairement formulé lors de plusieurs assises et dialogues nationaux par le passé. Je précise que les principaux partis politiques du Mali, les partis historiques et aussi les partis plus jeunes mais très représentatifs, souhaitaient eux-mêmes mettre en œuvre ces réformes. Pour ces partis, l'enjeu, c'était aussi de redonner confiance aux Maliens dans leur système politique et plus globalement dans la démocratie malienne. Donc ces partis avaient eux-mêmes transmis leurs propres propositions pour concrètement réaliser ces objectifs. C'était au mois de mars, en se fondant notamment sur la représentativité des partis, sur leurs résultats aux élections.
Ouais, et les autorités de transition ont estimé, je parle sous votre contrôle, David Baché, que les propositions justement des partis politiques n'étaient pas assez concrètes.
C'est ça, qu'elles étaient trop générales. Mamani Nassiri l'a encore redit mercredi. Alors, c'est une critique qui est jugée fallacieuse, de mauvaise foi, hein, par les dirigeants politiques qui estiment pour leur part que le but inavoué de la transition n'est en aucun cas d'assainir la vie politique malienne, mais de la réduire à néant. Eux considèrent que ce processus de réforme va tuer le multipartisme, avec au mieux un nombre très réduit de partis facilement contrôlables, et que le but ultime, c'est de permettre aux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali il y a donc déjà 5 ans, d'y rester sans opposition crédible et sans élection. Les opposants politiques avec qui j'ai échangé ces derniers jours estiment tous que le Mali est aujourd'hui devenu une dictature.
Serge, je vous ai coupé la parole, mais vous avez donc deux autres questions. On vous écoute avec David Bachet.
Désormais, l'opposition peut-elle se réorganiser ? Et qu'est-ce que la justice malienne peut... Est-ce que la justice malienne peut intervenir ?
David Bachet.
Alors la justice, hein, c'est justement la première option. Les partis politiques n'ont pour le moment pas réagi officiellement à leur dissolution. En fait, ils n'en ont même plus le droit. Mais d'après les échanges que j'ai pu avoir, ces actions en justice vont être entreprises pour contester la légalité, pour contester la constitutionnalité du décret présidentiel de dissolution. Alors ces actions seront menées devant la Cour constitutionnelle et devant la Cour suprême notamment, d'autres instances aussi, pas par les partis politiques, puisqu'encore une fois, ils n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit, mais par des personnes physiques, par des citoyens maliens
mais
qui en ont le droit.
Oui, ces démarches, David Bachet, elles ont peu de chances d'aboutir, non ?
Alors, les militants pro-démocratie vont quand même les tenter pour privilégier, c'est ce qu'ils expliquent, le cadre légal. C'est leur stratégie hein, depuis le début. Ceci dit, même les plus légalistes se retrouvent dans une clandestinité de fait aujourd'hui. Une clandestinité imposée puisque les partis et organisations politiques du Mali officiellement n'existe plus. La moindre réunion leur est interdite. Un simple échange téléphonique entre deux chefs de parti pourrait être considéré comme une activité illicite, passible de sanctions. Un ancien ministre m'a confié qu'une déclaration était en préparation, mais qu'il s'agissait de bien réfléchir à la fois à la forme et à la teneur de cette déclaration pour ne pas s'exposer. Un militant aussi m'a parlé d'une réunion à venir, mais il n'a pas voulu me préciser le jour, par précaution. Nous organisons la résistance de manière plus structurée, ça ce sont les mots de l'une des figures du mouvement pro-démocratie. À ses yeux, et c'est ce que me disent tous mes interlocuteurs, hein, limiter le combat à la question de la dissolution des partis serait réducteur. Cette question de la dissolution et les rassemblements organisés par les partis politiques ont été, on va dire, l'étincelle, le déclencheur de la contestation inédite qui a commencé au début du mois dans les rues de Bamako. Mmh. Mais il s'agit désormais pour ces militants pro-démocratie de défendre les droits des Maliens et de rejeter d'une manière générale la confiscation du pouvoir par les militaires depuis 5 ans et pour une durée indéterminée.
Ouais, ce que vous nous décrivez là, finalement, David Bachet, c'est le début d'une mobilisation citoyenne, populaire.
En tout cas, c'est ce à quoi aspirent les plus virulents défenseurs de la démocratie avec qui j'ai parlé, qui veulent une mobilisation au sens large. Mais mettre en œuvre ce type de résistance, c'est évidemment s'exposer au risque de répression. Je rappelle qu'outre les nombreuses voix critiques qui sont emprisonnées depuis ces dernières années, 3 militants pro-démocratie ont été enlevés la semaine dernière par la sécurité d'État. Alassane Abba et Abdoul Karim Traoré du parti CODEM et de la coalition Djigui Hakoura, et El Bachir Thiam du parti Yelema. Ils sont toujours détenus dans des lieux inconnus, en dehors de toute procédure légale. Mmh. Un autre, Cheikh Oumar Doumbia, qui lui est issu de la société civile, a été agressé au couteau, et des soutiens des militaires au pouvoir, parmi lesquels il y a quand même des membres du Conseil national de transition, ont ouvertement appelé à la violence contre les partisans de la démocratie. Et tout cela sans que la justice n'intervienne.
À suivre donc. En tout cas, le sujet passionne. Au standard d'Appel sur l'actualité sur nos réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à souhaiter prendre la parole. On prolongera notre débat d'hier, justement, dans la libre antenne, dans un petit quart d'heure maintenant. Merci David Bachet. On a pris le temps, Serge, pour vous répondre, mais c'est important de rappeler tous les éléments, d'avoir tout le contexte pour décrypter comme il se doit cette décision des militaires prise cette semaine au Mali. Serge ? Êtes-vous satisfait ?
Oui. Très.
Très.
Merci à David Bachet.
Merci à David Bachet, évidemment, du service Afrique de RFI. Il est déjà 8h25 en temps universel, 10h25 à Paris. On avait prévu d'autres questions ce matin, on a été bavard, mais voilà, on est en direct. Donc je m'excuse pour les auditeurs qui avaient prévu de poser des questions ce matin, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappellera demain. Et si je ne vous donne pas, vous, auditeurs, la parole à cette heure-ci, c'est que c'est l'heure de Jessica Taïeb. Bonjour Jessica.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous passez la semaine à scruter les réseaux sociaux, à regarder Instagram, Facebook, TikTok et autres, et cette semaine, c'est un classement qui enflamme les réseaux sociaux. On est à 6 mois de la cérémonie du Ballon d'Or, et le média en ligne Score 90, qui est spécialisé dans le football, a déjà publié son top 5, et des prédictions, eh bien, elles font déjà réagir.
Avec ses 6 millions d'abonnés sur Instagram et TikTok, Score 90 a officiellement lancé la course au Ballon d'Or. Dans le top 3, on retrouve Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone, ou Ousmane Dembélé, l'ailier devenu attaquant du PSG, et Rapinha, le gaucher brésilien du Barça. Alors oui, hein, c'est vrai que c'est encore un peu tôt pour projeter, la cérémonie n'a lieu qu'en novembre, mais ça n'empêche pas les fans de faire leurs pronostics. Sans surprise, c'est le duel Yamal-Dembélé qui divise le plus. Sous le classement, près de 5000 commentaires, hein, rien que sur Instagram, sur TikTok, des vidéos qui font des millions de vues. Et sur X, les internautes ne manquent pas d'imagination. On peut voir notamment des montages photos avec le joueur parisien Ousmane Dembélé, ballon d'or dans une main et trophée de la Ligue des Champions dans l'autre, ou encore des vidéos qui retracent les meilleures actions des deux joueurs et leurs meilleurs buts.
Bon, c'est vrai qu'en parlant de buts, Dembélé a fait une année exceptionnelle au PSG. 21 réalisations en 28 matchs en Ligue 1, 8 buts inscrits, je parle de mémoire, en Ligue des Champions. Et rappelons que dimanche dernier, il a été désigné meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP. C'est vrai qu'il a des arguments pour décrocher le Ballon d'Or cette année.
Et sur X, des centaines de comptes ont déjà démarré d'ailleurs, hein, ce qu'ils appellent la propagande Dembélé Ballon d'Or. Alors je vous lis quelques commentaires. Dembélé n'a pas besoin de gagner la Ligue des Champions pour être Ballon d'Or. Sa saison est déjà stratosphérique dans le jeu et dans les statistiques. Ce supporter parisien qui n'a pas oublié la troisième place de Mbappé au Ballon d'Or en 2023. On ne subira pas une nouvelle injustice, la France est derrière toi, Ousmane. Et celui-ci qui temporise, le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. Mais si le PSG prend la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est totalement légitime.
Bon, en tout cas, Ousmane Dembélé est loin de faire l'unanimité pour de nombreux internautes. Le Ballon d'Or 2025 s'appelle Lamine Yamal.
Oui, d'ailleurs, le joueur de 17 ans a le droit lui aussi à son montage photo sur X avec l'aide d'une intelligence artificielle, évidemment. On le voit avec un Ballon d'Or remis par Lionel Messi, et carrément. Les commentaires sont nombreux, carrément. Je cite « Je ne sais pas combien de ballons d'or Lamine Yamal va remporter, mais ce sera plus qu'un. Ce garçon est programmé pour marquer l'histoire, et cet internaute amplement mérité, car actuellement aucun joueur ne fait mieux que lui. » En termes d'impact, de vitesse et de vision de jeu. Et je termine avec ce tacle contre Ousmane Dembélé. C'est une insulte au football si on lui donne le ballon d'or. Des joueurs comme Trezeguet ou Maradona n'ont jamais eu ce privilège. Donc s'il vous plaît, pas Dembélé.
Bon, voilà, on est parti pour 6 mois de débat, 6 mois de lobbying sur les réseaux sociaux. Vous qui nous écoutez, je suis sûr que vous avez déjà un favori pour le ballon d'or 2025. Appelez-nous maintenant si vous le souhaitez, évidemment. La libre antenne, c'est dans 12 minutes maintenant. La possibilité pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Jessica Taïeb, merci infiniment.
Merci à vous.
Vous revenez évidemment vendredi prochain. Oui. Un œil sur les réseaux, c'est à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Et c'est à voir en images sur la chaîne WhatsApp de l'émission RFI Appel sur l'actualité. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur la chaîne WhatsApp de l'émission. Vous êtes 1 500 000, donc merci à tous de votre confiance et de votre fidélité. Et puisqu'on parle d'abonnés, merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de RFI. On vient de franchir le cap des 2 millions d'abonnés, donc merci vraiment à tous de votre confiance. Et d'ailleurs sur YouTube, en ce moment même, il y a Yacouba Nombré qui nous dit « Bonjour RFI, je suis en train de vous écouter depuis mon car ». Donc il est il conduit un car, ou il est peut-être, j'espère pour lui en tout cas, passager. Voilà, exactement. Et il dit, voilà, je m'informe et vous me tenez compagnie en ce moment. Donc Yacouba, bonne route, et je salue Prince également, qui nous envoie ses amitiés également sur la chaîne YouTube de RFI. Merci de votre fidélité, merci de votre intérêt à suivre la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient évidemment dans 10 minutes pour la Libre Antenne. 33 9 693 693 70. À tout de suite.